L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Une émission en partenariat avec la Maison de l'Agriculture Biologique et le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère. Et aujourd'hui, on se penche sur le climat. Alors de loin, ça peut paraître étrange de lier climat et agriculture. On pense plutôt en général agriculture et biodiversité. On pense question des pesticides qui font disparaître en Europe 20 millions d'oiseaux par an. Mais pour ce qui est du changement climatique, des gaz à effet de serre qui s'accumulent au-dessus de nos têtes et qui font grimper les températures, au point qu'on prévoit une hausse, enfin qu'on projette en tout cas une hausse de 4 degrés d'ici la fin du 21e siècle et non plus 1,5 degré. Donc récemment, la Cour des comptes a même émis le souhait qu'on réduise le nombre de vaches en France pour le bien du climat. Il y a donc des liens entre climat et agriculture. Pour savoir quels sont les liens, nous avons un invité pour nous éclairer qui s'appelle Fabien Pommier. Il est polyculteur, éleveur avec transformation, avec fabrication de pain. Enfin, il n'est pas tout seul, c'est à Rieux-sur-Velon. Il est aussi référent climat du conseil d'administration de la MAP 29. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Donc déjà, est-ce que vous avez une petite réaction sur ce rapport de la Cour des comptes à propos des vaches ?
Alors... c'est vrai que souvent quand on parle agriculture climat, on en arrive à parler des vaches. Le rapport, je l'ai pas lu, mais le rapport doit mettre en avant la part liée aux émissions de la fermentation entérique des vaches pour contribuer au changement climatique.
C'est leurs estomacs qui émettent du méthane, en gros, c'est ça. Hein,
c'est
fermentation entérique.
Les aliments qui sont mangés par les vaches fermentent dans le rumen, parce que c'est des ruminants. Et après, il y a une émission de CH4, là, le méthane. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Quand on parle agriculture, c'est vrai qu'il faut parler de l'émission qui est liée aux vaches. Le rapport de la Cour des comptes dit quelque chose de vrai. Et tout l'enjeu aujourd'hui des échanges qu'on aura, c'est de montrer que l'agriculture contribue au changement climatique, mais il y a différentes formes d'agriculture qui peuvent aussi contribuer à réduire ces émissions de gaz à effet de serre.
C'est exactement de ça qu'on va parler au cours de cette émission. On va revenir bien sûr plus en détail. On va parler peut-être de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui majoritairement. Et cette agriculture, le modèle agricole dominant, lui contribue clairement au changement climatique, au réchauffement. Et en quoi ?
Alors c'est vrai que l'agriculture, c'est un domaine assez spécial dans les émissions de gaz à effet de serre, parce que souvent quand on parle gaz à effet de serre, on peut faire un mélange entre gaz à effet de serre et émissions liées à la consommation énergétique.
Oui.
Sauf qu'en agriculture, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agriculture émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais consomme peu d'énergie fossile. C'est-à-dire que là, en Bretagne, par exemple, on voit que l'agriculture, elle consomme 7% de l'énergie.
Quand on compte tout, peut-être pas quand on compte la fabrication des tracteurs ou des choses comme ça.
Ouais, non, c'est les émissions liées à l'activité agricole. D'accord. Mais l'agriculture en Bretagne, c'est 44% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est pourquoi on a ces 44%.
Et donc, elle émet 44% des émissions qu'on émet en Bretagne,
voilà,
c'est ça.
C'est ça, donc c'est un gros contributeur.
En effet.
Mais c'est pas lié aux émissions de la combustion des énergies fossiles.
Ouais, c'est pas les moteurs des tracteurs en fait, c'est ça.
Voilà, c'est plein d'autres choses derrière. Et donc pour arriver à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'agriculture, il faut comprendre quelles sont les émissions.
Et alors allons-y.
Ouais. Allons-y.
Ouais.
7%, donc je disais, des consommations d'énergie, l'agriculture, 44% des émissions de gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre liés à l'agriculture, il y en a deux principaux. C'est le méthane, le CH4. Donc là, on en parle pour la fermentation entérique des vaches. C'est-à-dire que c'est les gaz qui sont rejetés par la fermentation qui a lieu dans le rumen, comme je disais tout à l'heure.
Et donc les ruminants uniquement, enfin essentiellement.
C'est les ruminants, c'est vaches et moutons.
Ah oui, les moutons aussi, d'accord.
Voilà.
Oui.
Et après, il y a un autre gaz, le protoxyde d'azote, N2O.
Ça fait plus peur, là.
Ça fait peur, et surtout, ce qui est compliqué, c'est celui-là, il est plus dur à appréhender. C'est-à-dire que c'est facile, le CO2 qui est lié à la combustion, on réduit les émissions. Pour réduire les émissions d'énergie, de CO2, il suffit de réduire les consommations d'énergie fossile.
Ouais, de combustion.
Voilà.
Ouais.
Okay. Le CH4, là, que j'ai décrit, ou le protoxyde d'azote, c'est plus dur, c'est des processus biologiques. Et donc là, le protoxyde d'azote, il est émis, alors c'est lié au cycle de l'azote. Et donc, quand on a des engrais minéraux, engrais de synthèse, les engrais qui sont utilisés en agriculture conventionnelle, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en agriculture bio. Mmh. Quand ils arrivent sur le sol, etc., il y a un processus qui se fait, et donc il y a du protoxyde d'azote qui est dégagé.
Ah oui, d'accord. Et c'est dangereux, sinon, à part que ça réchauffe l'atmosphère, le protoxyde d'azote
Le protoxyde d'azote, non, c'est un gaz qui est présent aussi naturellement, mais là, il y a une lié à l'activité humaine, il y en a plus de dégagés.
Donc quand on met un engrais minéral, ça dégage du protoxyde d'azote.
Il y a une partie, oui, qui est dégagée sous cette forme-là. Alors après, il y a aussi l'épandage même de matière organique, qui est au fumier, au lisier, qui dégage du protoxyde d'azote. Il n'y a pas que les engrais minéraux. Mais donc ce gaz-là, il est plus dur à appréhender. Et pourtant, il contribue aussi fortement au gaz à effet de serre.
Ah oui, il a un pouvoir de serre qui est, par exemple, équivalent au méthane. Le méthane a un pouvoir réchauffant qui est supérieur au CO2, par exemple.
Pour essayer de comparer le CO2, le CH4 et le N2O entre eux, on fait le pouvoir de réchauffement global. Et donc, le CO2, si on dit que c'est 1, le méthane, c'est 30, parce qu'il va rester plus longtemps dans l'atmosphère. Et le protoxyde d'azote, N2O, c'est 265. Donc, c'est-à-dire qu'il a un fort pouvoir de réchauffement global. Et donc, c'est pour ça que l'agriculture, ça est un fort enjeu par rapport au gaz à effet de serre. C'est à cause de ces deux gaz-là, le méthane et le protoxyde d'azote.
Donc, c'est aussi bien l'élevage que la culture de céréales. Enfin, toutes les cultures, finalement, nécessitent des amendements de synthèse. Enfin,
c'est ça. Le CH4, on peut vraiment plus le relier à l'élevage. Mm. Le protoxyde d'azote, là, le N2O, c'est lié
aux engrais.
Aux engrais. Ouais. Qui soit de synthèse, mais il y a aussi des engrais, des dégagements liés aux engrais organiques, quoi.
Et alors, quand il y a une usine de méthanisation sur la ferme, est-ce que ça réduit parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que l'agriculture se met à produire de l'énergie, des grands panneaux solaires qui surgissent sur des grandes exploitations.
Alors, ça a
été compté, j'imagine.
Ouais, voilà. Le méthane, il faut se dire que dès qu'il y a de la matière organique qui est sans oxygène, qui se dégrade, ça dégage du méthane. Donc les décharges, par exemple, elles dégagent du méthane. Ce méthane, dans les décharges, on fait des torchères, c'est-à-dire que quand il sort, on va le brûler, il va se transformer en CO2, et donc le CO2 va avoir moins d'impact, entre guillemets, sur le climat. Donc la méthanisation, le principe de la méthanisation, c'est intéressant, c'est du CH4 qui est produit, parce qu'on met la matière organique sans oxygène.
Et des excréments, c'est ça ?
Des excréments, notamment, mais après ça peut être des déchets d'abattoir, tout ce qui est de la matière organique. Et le CH4, on va le brûler pour faire de l'énergie et on va dégager du CO2.
On récupère, quoi.
Mais le problème de la méthanisation, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais.
Et donc après, des méthanisations à l'échelle d'une ferme, sur un processus où on valorise toute l'énergie, parce qu'on a de l'électricité, de l'eau chaude qui sont générées.
En circuit court, quoi.
Voilà, pour moi, ça a une pertinence. Et après, le problème, c'est tout ce qu'on en fait, quoi. Quand il y a une grosse méthanisation qui se fait à l'échelle d'un territoire, on va déplacer des matières organiques de partout.
S'il y a des camions qui amènent les matières organiques dans le méthaniseur, c'est ça.
Et après, le méthaniseur, il fait sortir aussi la matière, elle se transforme, mais il y a une même quantité qui reste. Et donc la matière, il faut leur renvoyer dans les champs, puisqu'on a de l'azote aussi qui ressort sous forme de digestal.
Ah, ouais.
Il faut la renvoyer, donc ça fait beaucoup de transport
en tous
les sens.
Cet azote devient un engrais, en fait, c'est ça, ouais.
Et après, le problème aussi, c'est qui maîtrise ces gros projets ?
C'est ça. Si c'est des gros projets, c'est un problème parce que voilà, ça génère donc déjà des circulations de camions, on va dire.
Ouais.
Et en plus, ça génère des coproduits, enfin, en plus du méthane, qu'il faut, c'est pareil, exporter, quoi, en général, parce que ça suffit pas, c'est pas absorbé localement, quoi. Taille, en fait, qui est le problème.
C'est ça. Et qui le maîtrise ? Parce que si c'est des fonds extérieurs qui viennent porter le projet, qui viennent faire leur prévisionnel économique, leur rentabilité, c'est les paysans, ils ne maîtrisent pas leur projet, en fait.
Ouais.
Donc, voilà.
Puis après, il y a le problème du fait que quand on a un énorme méthaniseur sur son exploitation, ça va coûter très cher à la revente et que tout le monde ne pourra pas se l'offrir, etc.
Il voilà, y a
ça,
d'autres sujets derrière.
On sort du sujet, quoique c'est aussi ça, hein, le changement climatique, ça va être réfléchir à nos sources d'énergie. Hein. Donc, l'agriculture aura peut-être sa part. Enfin, je ne sais pas si ça fait partie des réflexions de la Maison de l'Agriculture Bio, de la production d'énergie. Est-ce que c'est pertinent du point de vue de la Maison de l'Agriculture Bio
De dire que l'agriculture aura sa part, oui. L'agriculture, elle a sa part, mais dans un raisonnement global, de se dire cette production d'énergie doit... Le métier de l'agriculteur, en premier, c'est de produire de l'alimentation. Après, il y a des externalités positives. Quand en agriculture bio, on essaie de mettre beaucoup d'arbres, par exemple. Mmh. Les arbres, il faut les entretenir. Mmh. Et donc, il y a du bois qui est produit. Et ce bois, c'est tout à fait pertinent, qui serve en local à approvisionner des chaudières bois. Donc voilà, l'agriculture, oui, a sa part dans la production d'énergie. Mais souvent, là, on arrive à des confrontations d'utilisation de surface. On peut dire, par exemple, pour un méthaniseur, on va utiliser des surfaces agricoles qui avant produisaient de la matière première pour l'homme. On va l'utiliser pour faire des matières premières pour le méthaniseur. Et donc là, il y a une vraie question de qu'est-ce qu'on fait de nos surfaces.
C'est plus de l'alimentation, en fait.
Voilà, c'est...
On produit carrément pour alimenter le méthaniseur.
Voilà.
Quoi.
Alors que la méthanisation peut avoir un intérêt quand c'est des sous-produits, des déchets, en fait, qu'on met dedans.
C'est ça, ouais. Au contraire, l'agriculture, et notamment l'agriculture biologique, peut, ou l'agriculture de conservation, on pourra peut-être en dire un mot, peut contribuer à stocker le carbone, c'est ça ? Et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors comment ?
C'est ça, je pense que voilà, il faut se pencher sur le problème du climat. Comme vous l'avez indiqué au début, on a un vrai enjeu. Quand on regarde nos enfants en face, on se dit quel monde va vous laisser dans quelques années ? Et donc... Par rapport à tout ça, il faut se dire, oui, l'agriculture contribue, et donc qu'est-ce qu'on peut faire ? En ayant en tête que, moi, quand je parle d'agriculture, je suis paysan, et j'ai envie qu'il y ait encore plein de paysans, et encore plus dans les prochaines années. Donc, quelle solution on peut mettre en place qui ait une pertinence par rapport aux enjeux du climat, de l'eau aussi, de la biodiversité, et qui réponde à un besoin de rémunération aussi des agriculteurs ? Et il y a des solutions. Donc il faut les regarder.
Alors allons-y, on aime bien les solutions dans cette émission.
Donc là par exemple, on parle souvent des vaches, c'est vrai qu'une des solutions, donc, il faut savoir qu'en agriculture bio, la majorité des surfaces, je crois que c'est 70%, c'est des prairies. Les prairies, elles ont un vrai avantage, un vrai enjeu par rapport à ce qu'on échange sur le climat, c'est qu'elles stockent du carbone, c'est-à-dire que la matière organique, il y a du carbone dedans, il va dans le sol et il est stocké dans le sol.
Donc, bien qu'une forêt, quasiment, je crois. Hein, les prairies ont un bon pouvoir de stockage,
elles
c'est
ont un
ça
bon pouvoir de stockage. Après, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il y a beaucoup de facteurs de...
Est-ce qu'elle est humide ou pas, c'est ça, non ?
Voilà, et puis les prairies naturelles ou permanentes qu'on va laisser tout le temps, elles ont plus de stockage que des prairies qu'on va retourner au bout de tant d'années, etc. Là, quand on retourne la prairie, il y a un dégagement de carbone, on perd une partie du stockage.
Parce que quand on fait de l'élevage bovin en bio, on doit quand même retourner sa prairie de temps en temps, quoi.
Alors après, nous, par exemple, on est une ferme de polyculture élevage. Sur la ferme, on a des cultures de blé. Et donc, on a des prairies permanentes qui peuvent pas produire du blé. Donc, celles-là, on n'y touche pas. Et après, il y a des prairies qui sont dans la rotation avec le blé. Et donc en agriculture biologique, nous, on n'a pas d'engrais minéraux, engrais de synthèse. Et donc, on doit beaucoup travailler sur la rotation des cultures. C'est-à-dire qu'on peut mettre une année de blé ou deux maximum. Et après, derrière, on utilise la prairie pour ramener des choses au sol avant de revenir avec du blé.
Ah ouais, c'est ce qu'on appelle une prairie cultivée, en fait. Ça ne sera pas une prairie permanente, comme on dit.
Ouais, ça ne sera pas une prairie permanente. Ouais. Mais donc
la prairie cultivée, elle stocke moins de carbone, évidemment, que...
Qu'une prairie permanente.
Ouais, mais c'est quand même déjà quelque chose.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais.
Et donc voilà, l'élevage à l'herbe est une réponse, selon moi en tout cas, aux enjeux du climat.
Oui, parce que s'il n'y a plus d'élevage, il n'y aura plus de prairies en France, en gros. C'est un peu ça.
C'est ça. Je pense que moi, je suis capable de dire en tant qu'éleveur, il faut moins manger de viande. Comme par rapport à tous les enjeux qu'on a, j'adore voyager, mais je suis capable de dire que l'avion, je ne peux plus le prendre, quoi. Et donc ça, c'est pareil. Il y a des enjeux, on est obligé d'y répondre. Et donc là, l'élevage, pour moi, il faut qu'on réduise notre consommation de viande. Et donc, il y aura moins d'élevage, mais il faut qu'on aille vers de l'élevage de bonne qualité, de meilleure qualité. Et donc, pour ça, l'élevage, il y a des... Nous, sur notre ferme, il y a des zones où on ne peut pas faire autre chose que de l'élevage.
Oui.
Il y a des prairies. Et donc, ces prairies-là, oui, il faut de l'élevage sur toutes ces zones-là.
Ouais, parce que sinon, elles se transformeraient en forêt, en friche, en quoi, en gros, une prairie sur laquelle il n'y a pas d'animaux, ça se transforme en forêt, c'est
D'un point de vue écologique, oui, des espaces qu'on laisse tout seul, il y a tout un processus qui arrive à que ce soit des arbres.
Mm.
Mais voilà, donc elle a une vraie fonction. Et puis en agriculture bio aussi, on essaie de produire au maximum l'alimentation localement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller acheter, par exemple, de l'herbe. On dit qu'elle est équilibrée, c'est une ration équilibrée, c'est-à-dire que pour les animaux comme pour nous, il faut de l'énergie et des protéines. Avec de l'herbe, on a tout ce qu'il faut dans un seul produit. Quand on amène dans une ration, par exemple, le maïs...
Vous n'amenez pas de tourteau, en fait, c'est ça.
Voilà, le maïs, en fait, c'est de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie d'un coup, donc il faut qu'on mette beaucoup de protéines d'un coup. Et donc, il faut qu'on achète à l'extérieur cette protéine qui peut venir de très loin. Et donc en agriculture bio, on a beaucoup moins d'utilisation de ça. Et donc on diminue aussi les gaz à effet de serre liés à l'importation de protéines qui viennent d'ailleurs. Voilà. Et un dernier aspect, sur l'élevage à l'herbe, il y a eu des études aussi faites par, le réseau Agriculture Durable, qui montrent que quand on est en élevage à l'herbe, il y a moins de charges. Donc c'est-à-dire qu'on achète moins de choses à l'extérieur. Et au bout du compte, le paysan, il se rémunère mieux. Donc c'est-à-dire que c'est tout un cercle vertueux qui est bon pour le climat et on l'oublie pas non plus, qui est bon pour le paysan.
Voilà. Mmh. Oui. Et oui, en termes économiques, quoi. Enfin, de,
c'est ça.
Et puis même de fatigue. Enfin de... Et on parle aussi souvent de la qualité des sols pour le stockage du carbone, enfin, des micro-organismes présents dans le sol. Enfin, vous avez quelque chose à dire là-dessus sur la...
Alors, on sait que les sols, en agriculture bio, par exemple, on a plus de matière organique. Donc, il y a plus de végétation qui revient au sol, qui crée de la matière organique. Et donc, ça crée des sols aussi qui sont plus riches et qui permettent une meilleure rétention d'eau. C'est-à-dire qu'il y a moins d'eau à partir, on le garde plus dans le sol, qui permettent aux micro-organismes d'être plus présents, etc. Donc, il y a cette vraie question de la matière organique dans le sol qui a un enjeu. Et en agriculture biologique, on essaie d'y répondre. Voilà.
Et on parle aussi récemment, là, je voyais encore un article dessus sur l'agriculture de conservation. Alors, c'est pas tout à fait comme l'agriculture bio, mais l'idée, c'est quand même justement de préserver les sols, c'est ça
Ouais. L'agriculture de conservation, on va essayer enfin, on va pas faire de labour. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour que le sol soit jamais retourné. Après, l'enjeu, c'est que l'agriculture de conservation, il faut être très bon pour le faire et pas mettre de produits phytosanitaires. C'est-à-dire qu'après, il faut arriver à gérer quand même les adventices. Le terme courant,
c'est... Les mauvaises herbes, voilà. N'est-ce pas?
Et donc, il faut arriver à les gérer. Et donc, il faut être très bon pour arriver à faire des travaux mécaniques. Donc, aller gratter le sol, etc., etc., à différents moments, pour qu'elles ne prennent pas le pas sur la culture qu'on veut mettre.
Mmh. Il n'y a pas trop de concurrence, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais. Et des fois, il y a agriculture de conservation avec utilisation d'herbicides, quoi.
Ah ouais, ce qui est dommage.
Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que quand on regarde les enjeux, je pense qu'il faut les regarder tous ensemble. On ne peut pas se dire on est bon sur le climat, puis après le reste, on s'en fiche.
Oui. Voilà. Oui, en effet. En plus, alors il y a aussi tout un volet alors, qui est lié quand même au climat, c'est tout ce qu'on appelle l'agroforesterie. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Déjà, sur votre exploitation, vous, est-ce que vous la pratiquez ou...
Eh ben, on essaye depuis on s'est installé en 2016. Donc,
alors, qu'est-ce que c'est déjà? Il faut rappeler un peu en quoi ça consiste, l'agroforesterie.
L'agroforesterie, le principe, c'est de ramener des arbres dans les fermes. Avec les arbres qui peuvent avoir une fonction ou plein de fonctions derrière. Nous, on a replanté des arbres depuis qu'on s'est installé. La fonction première qu'on a, c'est par rapport à l'ombrage pour les vaches.
Donc là, on est dans le climat.
Voilà, on est dans le climat. Par rapport au... On a vu le climat qui a évolué.
Ah ouais.
Pour moi, il y a plein de choses qui se sont déjà passées. Ça sera encore
depuis
pire.
Depuis 2016,
après.
Vous avez vu le climat évoluer sur votre exploitation
On est venu s'installer en Bretagne en se disant que l'herbe serait toujours verte, mais il y a eu quelques années où l'herbe n'était pas très verte.
Parce qu'à Rignac-sur-Belon, il fait tellement chaud.
Mais c'est ça, le bord de côte. Et donc voilà, les arbres vont nous permettre d'apporter de l'ombrage pour les vaches. Et puis aussi, il y a une symbiose qui se crée. Il y a des externalités positives des arbres par rapport aux prairies qui sont autour.
Ah oui, par exemple.
Bah nous, on constate là, par exemple, on a mis les vaches avant-hier dans une prairie qui avait une haie, et à, je sais pas, 10 mètres des arbres, là, l'herbe était plus verte, il y avait plus de trèfles que l'autre partie de la parcelle. Donc, on voit que les arbres, ils ont plein d'atouts, et c'est aussi des réserves pour les auxiliaires. Les auxiliaires, c'est tous les animaux qui vont venir nous aider pour gérer les rongeurs ou les différents insectes qui viennent attaquer les cultures, etc. Quoi.
Et donc ça, vous avez replanté les haies, vous avez aussi fait ça, ce bocage, j'imagine.
Ouais. Et en plus, l'agroforesterie, l'idée, c'est que des parcelles qui sont en culture, l'idée, c'est de remettre des arbres dedans. Souvent, on a plutôt été, avec le remembrement, à couper les haies pour avoir des grandes parcelles pour que ce soit facile avec la mécanisation, avec les arbres.
Les tracteurs.
Et donc là, l'idée, c'est de ramener des arbres dans les parcelles, mais de manière pertinente. C'est-à-dire que c'est espacé pour que la moissonneuse puisse passer, pour que les tracteurs puissent faire le travail. Mais on se dit qu'il y a moyen de cumuler l'activité agricole et les arbres. Donc, pour ces fonctions-là, et à terme, il peut y avoir aussi les fonctions qu'on évoquait tout à l'heure de production de bois énergie, etc. Quoi.
Oui, et les vaches, elles n'aiment pas trop la chaleur en plus. Hein. Enfin, c'est finalement.
Non, les vaches, elles gèrent mieux le froid que la chaleur.
Paraît-il. Et elles peuvent manger les arbres accessoirement. Enfin, c'est qu'est-ce que vous choisissez comme type d'arbre ?
Eh bien, nous, l'idée c'était aussi d'avoir cette fonction-là, le pâturage des arbres. Donc, on les voit de manière naturelle quand elles passent à côté d'arbres. Des fois, elles sont plusieurs à essayer d'avoir les feuilles. Donc là, oui, on espère à terme avoir une utilisation aussi des arbres pour la nourriture des vaches. Sachant que dans certaines régions, j'ai déjà fait des voyages d'études sur cette thématique, et il y avait des éleveurs qui coupaient des arbres même l'été pour donner l'alimentation aux vaches. Alors ça, c'était plus en Limousin, mais ça doit se trouver même par ici.
Et dans votre exploitation polyculture élevage, il n'y a que des vaches, vous n'avez pas, je sais pas, des moutons avec du fruitier, enfin.
Non, non.
Ouais, c'est pas encore prévu.
Non, on a les vaches, c'est déjà pas mal de oui, travail, même si on n'en a que 25.
C'est des vaches laitières.
C'est des vaches laitières, ouais. Pour faire du yaourt. Oui. Et donc, non, nous, c'est. On voulait avoir sur la ferme un système cohérent. Pour nous, cohérent, c'était avoir de l'animal. Donc là, ici, c'est des vaches. Et du végétal. Donc on a la production de blé sur la ferme, qu'on va transformer en farine à la ferme et transformer en pain à la ferme. Et les vaches, le lait, on le transforme en yaourt. Et tout ça, c'est permis parce qu'il y a plein de monde sur la ferme. Donc je cite mes associés Romain et Jean-Marie, et puis Pierre-Henri et Périg qui travaillent aussi à la ferme.
Un salarié. Et donc, 5 personnes qui vivent sans trop de problèmes, quoi. Voilà, vous y arrivez.
5 personnes sur 60 hectares.
Et c'est pas énorme.
Ouais. Non, c'est tout petit. Ramener à la personne. Même des fois, on se dit que ça fait 5 vaches par personne, donc ça fait tout petit. Mais oui, on vit bien de notre métier. Et l'idée, c'est aussi de démontrer que on peut bien vivre de notre métier, parce qu'il y a les enjeux du climat, et en agriculture, il y a aussi l'enjeu d'avoir des paysans demain.
C'est ça.
Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de paysans qui vont partir à la retraite, et donc il faut installer des paysans. Donc l'enjeu, c'est qu'il y en ait beaucoup et qu'il aille vers un système qui réponde aux différents enjeux qu'on a évoqués. Quoi.
Et sur des surfaces pas trop énormes, parce que bah, c'est pareil, il y a un enjeu de foncier, il y a le problème de trouver des terrains, quoi, tout simplement.
C'est ça. Et puis après, pour faire l'agriculture qui réponde aux enjeux, il faut avoir une surface, selon moi, pas trop énorme pour pouvoir bien s'en occuper et faire tout ce qui est souhaitable. En ayant quand même du temps pour soi, parce que quand on est paysan, on a quand même une famille, etc. Donc l'idée, c'est de concilier le tout.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de Cool Food Pro, qui a un lien avec notre thème climat et agriculture ?
Cool Food Pro, c'est un outil qui a été développé avec différentes structures. Et la Maison de la Bio, de l'agriculture biologique du Finistère, est un partenaire de ce projet. L'idée, c'est d'avoir un logiciel qui permette de quantifier les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation.
Pas seulement l'agriculture, quoi.
Liées à l'alimentation, tout
en général.
Mange, quoi.
D'accord. Donc, même transformation aussi, quoi.
Ah oui, oui.
Okay.
Et suite à ce diagnostic, il y a un bilan qui est réalisé de se dire si je fais telle évolution, de combien je diminue les gaz à effet de serre liés à ce que je mange.
Si je choisis les yaourts de la ferme de Rillac-sur-Belon plutôt que des yaourts faits en Suisse ou je ne sais où, c'est ça par exemple.
Ou plutôt il y a des challenges de se dire si je mange tous les soirs de la viande, si une fois par soir je ne mange pas de viande, quel est l'impact que j'ai, quoi.
Ok, et donc ça, c'est pourquoi ça s'appelle pro, c'est réservé aux professionnels, enfin, c'est quoi?
Alors c'est utilisé, ça peut être utilisé pour les particuliers, les citoyens, et c'est aussi utilisé dans les restaurants scolaires, puisque à l'agriculture bio, à la Maison de la Bio, il y a un gros travail qui est fait pour inciter les restaurants collectifs à manger plus de produits bio dans les cantines.
Et ça concrètement, ça se traduit par c'est quoi une appli. Enfin, on rentre ce qu'on a mangé dans la semaine et puis l'appli calcule. Enfin, comment c'est fait?
Ouais, c'est ça. C'est différentes pages du logiciel qu'il faut passer où on renseigne les différents éléments, on répond à des questions et à la fin, ça donne un bilan.
Ah ouais. Et vous, à la ferme, par exemple, vous êtes amusé entre guillemets à faire votre bilan carbone.
Alors là, c'est plus adapté pour vraiment les citoyens ou ce qu'on a dans l'assiette.
Oui, c'est parce qu'on mange,
et
bien sûr.
Nous,
mais sinon,
on a fait un diagnostic qui s'appelle Dialect, qui est un diagnostic qui a pour objectif de regarder les éléments gaz à effet de serre et l'eau, la biodiversité, plusieurs éléments.
Ah oui, d'accord. Ouais. Pas seulement le climat. Enfin, quoique l'eau et le climat, c'est quand même lié. Et donc, vous êtes bien alors.
On peut toujours faire mieux, mais en tout cas, ça permet de se dire quelle est notre base de départ et sur quoi on veut agir.
Ouais. Et notamment l'eau, j'imagine qu'à Rillac, ça va être un problème aussi.
Ah oui,
ça l'est déjà ou pas?
Bah, c'est un problème. L'année dernière, c'était un problème comme dans beaucoup d'endroits où nous, on a mangé pendant l'été, là, on a donné tout le stock aux vaches qui était prévu pour l'hiver. Donc, c'est-à-dire que l'eau qui était nécessaire pour que l'herbe pousse, elle n'était pas là. Ouais. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Ouais.
Mmh. Eh bien, Fabien Pommier, on va bien vous remercier et on va inviter les auditrices et les auditeurs à écouter cette émission sur le site de Radio Évasion et à réécouter toutes les autres qu'on a réalisées avec la Maison de la Bio et le groupement des agriculteurs du Finistère.